Nous sommes une classe de première HLP du lycée Jean Monnet à Jouer-les-Tours. Nos professeurs nous ont emmenés au temps machine où nous avons la chance de visiter les lieux.
Qu'est-ce que le temps machine ?
Le temps machine est un lieu dédié aux musiques actuelles qui correspondent à la plupart des genres musicaux, sauf la musique classique et l'opéra. Le temps machine est aussi une SMAC, scène de musique actuelle. Ce label est délivré par le ministre de la Culture.
Et comment est conçu le bâtiment ?
L'équipement comprend deux salles de concert, une grande salle de 600 places et un club de 180 places debout. Trois studios de répétition, un patio et un espace d'exposition. Lilou, parle-nous un peu plus de la grande salle.
La salle de 600 places est équipée d'un système de diffusion sonore spatialisé ainsi que d'éclairage scénique. La grande salle accueille des gros plateaux techniques et des artistes têtes d'affiche des scènes rock, pop, électro, hip-hop.
C'est aussi un espace de création, de filage et d'accompagnement scénique au service des groupes. Ponctuellement, elle peut également accueillir d'autres projets comme des expositions, des conférences ou encore des salons.
Le projet culturel et artistique du Temps Machine repose sur plusieurs axes, comme diffuser régulièrement des concerts d'artistes locaux, nationaux et internationaux.
Diversifier les publics, permettre l'accès au plus grand nombre en pratiquant des tarifs raisonnables et ainsi créer des conditions favorables à la découverte, ou encore défendre la diversité culturelle en soutenant aussi bien des esthétiques et des artistes en marge de l'industrie du disque que des artistes de renom.
Chers auditeurs, avant de vous faire écouter l'interview qui va suivre, nous allons vous faire une courte présentation de Baptiste Hamon, chargé de l'action culturelle que nous avions interviewé le lundi 15 mai aux alentours de 15h. Son travail consiste à réduire les inégalités face à l'offre culturelle, à créer un lien social de proximité afin de faciliter l'accès des jeunes aux musiques actuelles.
Il travaille avec le jeune public et lui fait découvrir les locaux en lui faisant des visites adaptées de la structure, des présentations de son fonctionnement et de son équipe. Il fait aussi des interventions en classe pour présenter ce milieu professionnel et le monde de la musique.
Mais pas seulement, il travaille aussi avec les prisons, les EHPAD ou encore les centres sociaux.
En quoi consiste votre travail au temps machine ?
Et bonjour à vous. Alors donc moi je suis chargé de l'action culturelle et de la programmation jeune public. Donc en soi, je monte des projets avec plein de structures différentes, donc des projets musicaux où on fait intervenir des artistes pour travailler avec le public de chacune des structures. Donc ça peut être avec des maternelles, des primaires, des collèges, des lycées, des universités, des maisons d'arrêt, des hôpitaux, des centres de loisirs, des centres sociaux, enfin plein de structures différentes avec qui on monte des projets uniques et individuels avec chacune de ces structures-là. Et en plus de ça, j'ai une partie programmation jeune public, donc où je programme des spectacles pour le jeune public, donc pour les enfants de 0 à 12 ans, sur plein d'esthétiques différentes, des ciné-concerts, des groupes de pop, de rock, de rap, etc. etc.
Quel parcours avez-vous effectué pour faire ce métier ?
Alors au début, moi je voulais être prof des écoles, donc je me suis un petit peu cherché. Donc du coup j'ai fait un bac classique et puis ensuite j'ai fait une licence de sciences de l'éducation pour devenir prof. Ça m'a bien plu mais je me suis rendu compte que l'éducation nationale n'était pas faite pour moi ou je n'étais pas fait pour l'éducation nationale. Donc après j'ai fait une licence d'information communication et après j'ai fait un master de communication publique et après j'ai fait un master de management culturel.
D'accord, donc après parmi tous les projets que vous avez menés, quel est celui qui vous a le plus marqué ?
C'est une bonne question. Il y en a eu beaucoup. Je vais parler d'un parce que c'est peut-être le dernier en date et donc du coup c'est plus facile d'en parler. Je parlerai d'un projet qui s'appelle C'est pas de la kermesse. Et donc là, il y a eu une des restitutions, l'un des concerts qui a eu lieu le 4 mai dernier, donc c'était vraiment il n'y a pas longtemps. C'est un projet qu'on mène avec des éducateurs du service de prévention du département, donc qui travaillent dans les quartiers de Tours, et qui ont fait un repérage depuis plusieurs années, puisque c'est un projet qui a 4 ans, donc on fait un repérage depuis à peu près 4 ans, où ils ont repéré des jeunes dans les quartiers qui font du rap ou qui aiment le rap ou qui avaient envie d'écrire. Et on a travaillé avec un artiste qui s'appelle Chesco, qui leur a appris à écrire des textes. Enfin, au démarrage du projet, en tout cas, c'était ça, qui leur a appris à écrire des textes de rap, à travailler sur la musique, comment est-ce qu'on rappe, comment est-ce qu'on pose son flow, comment est-ce qu'on pose ses phrases, quel type de rythme on utilise. Et ensuite, ils ont travaillé sur la scène pour savoir comment on passe sur scène, comment on tient un micro, comment on se comporte sur scène. Donc ça fait 4 ans que ce projet-là existe, et cette année, il y avait une édition All-Star, donc avec les meilleurs des 4 années, enfin les meilleurs, entre guillemets, hein, ils étaient tous et toutes très bons, mais en tout cas avec une belle édition de clôture cette année de ce projet-là, donc a eu lieu le 4 mai, et il y avait plus d'une centaine de personnes dans le public, donc c'était une super soirée où ils ont tout déchiré.
Très bien. Selon vous, quelles compétences faut-il avoir pour exercer ce métier ?
L'adaptabilité, je dirais, parce que ça change tous les jours. On se retrouve, le lundi matin, je peux être avec des enfants d'une école primaire, l'après-midi dans une maison d'arrêt, le lendemain dans une clinique psychiatrique, etc., etc. Donc, il faut savoir s'adapter à chacun des publics qu'on a en face et chacune des structures. Donc, je pense que ce serait l'une des premières qualités. Puis, sinon, de la patience, de la sociabilité, être capable de discuter un peu avec tout le monde, de s'adapter à tout ce qui se trouve. Et puis, je pense que l'empathie et la bienveillance, ça fait aussi partie des qualités requises. Donc, c'est peut-être plus des qualités humaines que, je pense, des qualités ou des compétences administratives, techniques ou autres. Ça se travaille.
Comment s'organisent les événements ? Est-ce que parfois c'est dur ou stressant, par exemple, d'organiser des grands événements ?
Oui. Ça l'est presque toujours, que ce soit des petits ou des gros événements. Donc moi, sur la partie action culturelle, il y a un peu moins de stress, dans le sens où on n'attend pas forcément un public en face des actions qu'on mène. Si on fait une action avec des enfants, le soir, ça va être les parents qui vont venir. Donc là, en l'occurrence, c'est plutôt simple en termes de public pour les faire venir. Mais quand on organise un concert, forcément, on ne sait pas le nombre de personnes qu'il va y avoir, on ne sait pas si ça va fonctionner. C'est des risques financiers. Donc voilà, on paye les artistes qui viennent ici. Donc forcément, si on a très peu de public, on perd de l'argent. D'ailleurs, même quand il y a beaucoup de public, on peut perdre de l'argent, mais c'est une autre question. Mais du coup, ouais, y a toujours un peu de stress, il y a beaucoup de choses à prévoir en amont, ce qui fait que le jour du concert ou le jour de l'événement, il faut quand même être un minimum organisé pour savoir si on a bien tout fait dans les temps, que tout le monde a les bonnes informations et tout ça. Mais tout ne se passe quasiment jamais comme on l'a prévu, donc il y a toujours... ça peut être des incidents techniques, ça peut être des problèmes à droite, à gauche. Alors, ce n'est pas des gros problèmes, mais en tout cas, il faut savoir s'adapter, rebondir sur ces problématiques-là. Donc, c'est toujours un petit peu stressant, mais on a une bonne équipe et généralement, tout se passe bien. Et on connaît tous notre job, donc ça fonctionne plutôt pas mal, je pense.
Avez-vous des conseils pour les personnes qui vont suivre votre parcours ?
S'accrocher. Je pense que ça peut être ça, parce que c'est des boulots dans lesquels il n'y a pas forcément énormément de travail. Il y en a, mais il y a des postes quand même qui sont assez rares. Donc il y a de plus en plus de monde qui font ce genre d'études. Donc forcément, s'il y a beaucoup de monde qui sortent des études et très peu de postes, il ne faut pas avoir peur de se créer son réseau. Je pense que c'est ça surtout que je donnerais comme conseil, c'est de se créer du réseau, c'est de ne pas hésiter à faire de l'expérience de bénévolat dans des salles de concert, dans des festivals, dans différentes structures culturelles pour se faire connaître, pour commencer à apprendre pas mal de choses au fur et à mesure. Et puis après, compléter son réseau par des études qui permettent d'apprendre le côté technique, administratif, le vocabulaire à employer et ce genre de choses-là. Mais je pense que faire son réseau et se faire de l'expérience en bénévolat, ça peut être un bon conseil.
D'accord, merci. Et sinon, comment faites-vous pour trouver les groupes pour les jeunes publics ? Enfin, comment faites-vous pour chercher ces groupes ?
Pour la programmation, il y a beaucoup... Moi, je reçois beaucoup de demandes de la part de groupes eux-mêmes ou de la part de... leur chargé de diffusion, de la part des boîtes de production qui veulent faire tourner les spectacles qu'ils ont dans leur catalogue. Donc du coup, j'en reçois énormément. Et puis à la suite de ça, moi, je vais en voir beaucoup. Il y a des festivals jeunes publics qui existent un peu partout en France. Donc je me rends sur les différents événements pour voir ce qui se fait, regarder les spectacles, discuter avec les équipes artistiques. Donc ça, c'est la première piste, c'est vraiment d'aller voir les spectacles. Et puis surtout depuis le Covid, je pense qu'il y a quand même pas mal de captations vidéo qui sont faites des spectacles. Donc j'en reçois aussi pas mal, ce qui me permet de les regarder sans forcément avoir besoin de me déplacer. Même si ça vaut pas le côté live de la performance en direct, où on voit les artistes sur scène jouer, échanger avec le public et tout ça, mais en tout cas, ça peut donner un bon aperçu du spectacle en lui-même. Et puis moi, j'essaye de tenir une sorte de direction artistique où je me dis, cette année, j'ai envie de développer une programmation qui tourne autour de telle thématique ou autour de tel sujet ou qui s'adresse à tel ou tel public. Et puis d'essayer de faire quelque chose d'assez cohérent sur toute la saison, donc avec ces éléments-là. Et sachant, comme je vous disais, la programmation jeune public, ça peut aller de 0 à 12 ans. Essayer aussi de trouver des spectacles pour toutes les tranches d'âge et tous les publics, donc faire des spectacles pour les tout-petits, pour les 0-6 mois, faire des spectacles pour partir de 3 ans, 6 ans, 8 ans, 12 ans, etc. Donc avoir quelque chose d'assez, d'assez cohérent autour de tout ça.
Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur le fait que vous perdez quand même de l'argent, même s'il y a un grand public ?
Eh bien, ça, c'est une très bonne question parce que, en gros, nous, les artistes qui viennent ici au Temps Machine sont pour la majorité des artistes émergents, donc qui ne sont pas encore extrêmement reconnus par le public ou connus par le public de manière nationale, mais qui sont en train de le devenir. Donc, c'est déjà des artistes professionnels. Ils sont en train, pour certains et certaines, de se développer. Donc nous, on paye les artistes à différents prix en fonction de leur notoriété, en fonction du nombre qu'ils vont être sur scène, en fonction de l'équipe qu'il peut y avoir derrière, l'équipe de production et les labels, etc. Et donc du coup, des artistes qui peuvent nous coûter assez cher, sachant que nous, on a une salle qui fait 600 personnes, la grande salle. Donc si on met des billets qui sont pas très chers, des billets d'entrée pour le public, puisque nous, c'est une volonté que de mettre des billets pas trop chers, on est subventionné, on a des subventions publiques pour pouvoir nous permettre de mettre une billetterie qui ne soit pas excessive pour les gens. Donc du coup, sachant que le billet d'entrée n'est pas très cher, on ne comble pas forcément le prix que le groupe nous a coûté. Donc c'est pour ça qu'on a des subventions, c'est pour combler à ce manque d'argent, entre guillemets, qu'on a sur les différents concerts. Parce que nous, l'argent qu'on gagne au Temps Machine, l'argent de nos fonds propres, vient de la vente de billets et du bar, en grosse majorité. Donc du coup, bah, c'est vraiment sur les soirs de concert qu'on peut gagner de l'argent. Et même quand on fait complet, si les gens ne consomment pas au bar et si le billet d'entrée était très peu cher, ça ne rembourse pas l'intégralité du prix que nous a coûté le groupe, plus les ingénieurs du son, l'ingé lumière, le prix de l'électricité, de tout ce qu'on consomme ici. Donc ça fait quand même des coûts qui sont assez importants sur une soirée. Donc parfois, la billetterie ne permet pas de financer tout ce qu'on fait ici, d'où les subventions qu'on peut toucher.
Durant la période Covid, le Temps Machine a été impacté. Il y avait moins de concerts.
Ça a même été très impacté puisqu'on faisait partie des non-essentiels, surtout au départ. Donc du coup, on a fermé lors du premier confinement, alors un peu comme tout le monde, mais pour le coup, on a vraiment totalement fermé. On n'avait plus aucune activité possible, que ce soit en programmation, donc les concerts, mais que ce soit aussi les résidences artistiques, que ce soit aussi les actions culturelles, que ce soit aussi tous les événements qu'on mettait en place pour le jeune public. Donc on avait vraiment aucune activité possible lors du premier confinement. Ça s'est un petit peu desserré lors du second confinement, puisqu'on pouvait accueillir des équipes artistiques au Temps Machine, mais pas devant un public. C'était uniquement à destination des professionnels. Donc les artistes pouvaient travailler la sortie de leur prochain spectacle, leur prochain concert, etc., mais ne pouvaient se produire que devant des professionnels. Donc on invitait les différents membres du réseau à venir découvrir les groupes, mais jamais devant du public. Donc ça a été quand même particulièrement difficile comme période pour une salle de concert. Alors après, on a essayé de faire des choses à l'extérieur quand on pouvait le faire à l'extérieur. On a essayé d'arranger la salle. En gros, on a fait avec les mesures qui nous étaient imposées, en essayant quand même malgré tout de continuer à vivoter pendant ces quasi 2 ans. Donc voilà, au début ça a été dur parce qu'on pouvait rien faire, et puis après on a essayé de trouver des solutions pour quand même garder un petit peu d'activité, pour que les différentes salariés du Temps Machine puissent quand même avoir des choses à faire, parce que on était quand même toujours salariés de l'entreprise. Donc voilà, on a essayé de faire au mieux sur la période avec les possibilités qu'on avait.
Merci. Et sinon, est-ce que vous auriez un concert à conseiller pour les auditeurs qui se passe très prochainement?
Eh bien, au Temps Machine, on n'a plus grand-chose puisqu'on finit notre saison. Là, il me semble, ne pas dire de bêtises en disant que la dernière soirée était vendredi soir dernier. Au Temps Machine, en tout cas. Mais on continue de faire des choses à l'extérieur. Et je peux vous proposer de venir le 26 mai à la Guinguette de Tours. Je vous parlais du projet C'est pas de la kermesse tout à l'heure. Il y a d'autres concerts, d'ailleurs, je suis en train de dire des bêtises. Il y a un concert notamment le 31 mai au Temps Machine de Black Sidahu et Coconut. Donc ça va être très chouette, c'est un concert de folk, pop folk, donc ça va être très sympa. C'est dans le club du Temps Machine, donc une ambiance un peu plus intimiste que dans la grande salle. On est vraiment hyper proche des artistes, donc c'est quand même assez, assez particulier, et c'est clairement une expérience à vivre. Donc ça, je peux vous le conseiller. Et comme je vous disais, on a aussi le 26 mai à la Guinguette de Tours, le projet C'est pas de la kermesse dont je vous parlais tout à l'heure, avec les jeunes qui font du rap, mais pas que. Et du coup, donc, ils sont joués au Temps Machine le 4 mai, et ils rejouent aussi le 26 à la Guinguette de Tours. C'est gratuit et ça va être chouette.
Merci de votre écoute. On se retrouve très prochainement pour une interview.